Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Plusieurs femmes en RDC souffrent des fistules. Conséquence, elles sont incapables de contenir les urines ou même parfois les matières fécales. D'après les experts, ces fistules sont causées de suite de viols ou des complications d'accouchement. Quels sont les signes et comment soigner cette maladie? Docteur Ren Katoba est là avec nous pour en parler. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Alors, on a parlé des causes, docteur. Il y a des cas de viols ou de complications d'accouchement. Comment ça se passe exactement pour qu'on en arrive à une fistule?
Non, une fistule, c'est une communication anormale entre deux organes. Mais dans ce cas ici, nous allons plus parler des fistules urogénitales. Donc, c'est une communication entre les organes de la femme, les organes génitaux de la femme, entre le vagin ou l'utérus avec la vessie ou l'urétère. Également, il y a une communication anormale entre même le rectum et le vagin. Et c'est là, comme vous l'avez dit, il y a des signes qui apparaissent. Vous allez voir la femme qui est en train de perdre des urines, elle ne sait pas contrôler ses urines et elle mouille les habits avec les urines, ou tout comme elle va commencer à faire des selles et les selles vont commencer à sortir par la voie vaginale. Elle ne sait pas contrôler tout ça. Et souvent, comme vous avez dit, il y a des causes et cela arrive souvent au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, si la femme la femme n'a pas reçu le soin au moment opportun, elle va développer cette lésion et va développer cette complication au moment de l'accouchement.
Au moment opportun, c'est-à-dire lorsque la prise en charge ne se fait pas correctement pendant la grossesse?
Oui, lorsque la prise en charge ne se fait pas correctement.
Qu'est-ce qui doit par exemple être fait pendant cette grossesse et qui n'est pas fait et qui peut arriver à aboutir à une fistule? Quoi par exemple?
Donc au moment où la femme est en train, elle sent le besoin, elle sent qu'elle est arrivée au terme.
Oui.
Il faut qu'elle soit dans un service de santé bien qualifié ou dans un centre de santé où elle peut avoir accès à ses soins. Mais ce qui arrive, c'est que deux fois, nos structures sanitaires sont éloignées des villages. Et le temps qu'elle est en train de passer, de quitter son village pour arriver à la structure de soins, elle met beaucoup de temps. Et quand elle met beaucoup de temps, pendant ce temps, il y a cette complication qui va survenir. Donc, la tête de l'enfant va se coincer au niveau de cette membrane qui sépare la vessie et l'utérus. Et la membrane va... Il y aura une...
Rupture.
Il y aura une déchirure. Déchirure de cette membrane. Il y aura une communication qui va se créer. Et ça va entraîner ce que nous appelons la fistule. Tout comme elle peut arriver au niveau des structures de soins par manque de personnel qualifié. Parce qu'on retrouve même dans certains centres de santé, il n'y a même pas une accoucheuse qualifiée. Il y a peut-être une sage-femme. Et quand la femme est en train d'entraîner pendant la durée de l'accouchement, au lieu qu'elle ait accès à ce soin de qualité, la femme n'a pas accès à ce soin parce qu'il n'y a pas un personnel qualifié. On va toujours lui dire de pousser, or que peut-être c'est une césarienne qu'il faut faire, et le temps qu'elle est en train de passer, il y a cette complication-là qui va se créer et qui va entraîner la fistule. Ça, c'est les fistules d'origine obstétricale. Comme vous l'avez aussi dit, il y a les fistules...
Obstétricales, c'est-à-dire liées à l'accouchement.
Liées à l'accouchement. Oui. Oui, il y a aussi des fistules qui viennent après des viols, comme vous l'avez dit, parce que là, on utilise des objets tranchants, et ces objets tranchants peuvent blesser cette membrane qui sépare les deux organes et ça va créer également des cas de fistules.
Voilà, docteur, à tous ceux qui sont intéressés par le sujet, peuvent déjà nous appeler au 081-890-6394 ou nous faire parvenir un SMS au 081-711-5001. Nous parlons des fistules, comment les soigner. Nous avons avec nous docteur Irène Katoba. Alors, docteur, devant un tel cas, quelle est la première réaction à faire lorsque vous avez un cas de fistule?
Quand déjà la femme constate qu'elle est en train de perdre des urines, elle ne sait pas contrôler, elle se retrouve qu'elle est mouillée et commence à sentir des odeurs des urines ou bien elle commence à faire des selles par le vagin, la première réaction qu'il faut faire, c'est de se rendre dans une structure de soins de santé. dans un centre de santé plus proche ou bien dans un hôpital. Parce que dans un centre de santé, on va faire les premiers soins, on va lui donner des conseils ou bien on va orienter cette femme vers une autre structure peut-être spécialisée, là où il y aura un médecin qui peut réparer chirurgicalement. Parce que là, il faut faire seulement la chirurgie.
C'est le seul traitement qu'il faut pour une fistule, c'est la chirurgie.
Oh oui, il faut la chirurgie pour réparer. Mais il y a aussi d'autres traitements, il y a des traitements qui accompagne, par exemple l'accompagnement psychosocial, ça c'est juste pour essayer de conseiller la femme, tout ça pour lui remonter le moral, hein? Et donc ça ce sont des autres soins qui accompagnent la prise en charge chirurgicale des cas de fistules.
Dans le cas où la prise en charge n'est pas immédiate, il y a des conséquences?
Oui, dans le cas où on ne sait pas prendre à temps cette femme, il y a des conséquences. Parce que d'abord, il y a des conséquences sur le plan social, il y a des conséquences sur le plan sanitaire, il y a des conséquences sur le plan aussi économique. Sur le plan social, ces conséquences, c'est que cette femme sera rejetée par sa communauté. Parce qu'une femme qui sent les urines, tout le monde a tendance à la fuir et elle sera rejetée et elle sera elle-même un peu frustrée. Elle va se renfermer sur elle-même. Donc, et si elle était mariée, vous voyez nous-mêmes les maris ici en Afrique, s'il y a une femme comme ça, la première réaction c'est abandonner cette femme-là.
Le mari qui n'arrive pas à supporter
les odeurs, tout ça. Bon, et il va abandonner la femme, la femme va se retrouver seule. Et également, sur le plan économique, si elle faisait le commerce, si elle faisait du travail, elle ne sait plus faire ça parce que dans les endroits où elle est en train de partir, il y a l'entourage est en train de la stigmatiser par rapport à ses odeurs des urines ou ses odeurs de sel. Et ça va également créer ce que la femme ne puisse pas faire le travail qu'il faut. Mais sur le plan sanitaire, il y a aussi des infections qui vont... elle peut développer des infections sur cette fistule-là. Et ces infections, si elles ne sont pas soignées, ça va aller jusqu'à la complication, ça peut l'entraîner même à la mort.
Un auditeur en ligne, c'est Gauthier Itoko depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Gauthier, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute, Gauthier.
J'ai une petite question au docteur. J'aimerais savoir les méthodes préventives que nos mamans peuvent utiliser pour lutter contre cette maladie.
Voilà. Merci Gauthier et docteur Irène.
Bon, il y a les méthodes préventives que la maman peut faire. D'abord, cette maman-là, on doit conseiller aux jeunes filles d'éviter des grossesses précoces. Éviter des grossesses précoces, éviter également d'avoir des grossesses trop nombreuses, éviter également d'utiliser, il y a certaines femmes qui utilisent des plantes, hein, des plantes pour les soins intimes, il faut éviter tout cela. Donc il faut également utiliser les méthodes de planification familiale, parce que quand on utilise les méthodes de planification familiale, ça permet à la femme d'espacer les grossesses et également de pouvoir se reconstituer entre les deux naissances, et comme ça elle a une bonne santé. Et également on conseille au moment de fréquenter les structures de soins. Parce que quand tu es enceinte, il faut également suivre les CPN. Et pendant ces CPN, on sait te prendre en charge, on sait t'orienter, on sait t'indiquer en cas de tel signe. Si tu observes tel signe pendant ta grossesse, au moment de l'accouchement, il faut vite courir vers les structures de soins.
Les fistules, comment les soigner? Nous en parlons avec le docteur Irène Katoba, chargée du programme fistules au bureau UNFPA Kinshasa. Vous voulez intervenir? Appelez-nous au 081-890-63-94.
Au pays des léopards, le ballon est roi et le football a désormais son émission. Au Capifoot, chaque dimanche de 18 à 19h. Autour d'un invité, l'équipe de sport vous invite à réagir en direct sur l'actualité après les matchs du jour. Coupe, championnat, Ligue des champions, Radio Capi vous donne la parole. Au Capi Foot, c'est en direct et c'est le dimanche de 18 à 19h. Appelez le 081 890 64 89.
Alors, docteur, si on a bien compris, les fistules surviennent souvent en cas de complications d'accouchement, donc c'est-à-dire lorsque la grossesse arrive à terme. Est-ce que déjà, au niveau du troisième trimestre de la grossesse, pour une grossesse qui est à problème, on peut déjà craindre ces genres de cas, une fistule par exemple?
Bon, déjà, quand la femme est en train de suivre les consultations prénatales, on est en train de lui suivre, on lui donne des rendez-vous. Déjà, au trois, par exemple, à son dernier rendez-vous, on va lui donner les signes d'un accouchement. Et on va lui dire, si tu observes tel signe, automatiquement, tu vas te rendre dans une structure.
Quel signe?
Bon, tu vois, les signes d'un accouchement, si elle a des signes, des contractions, des pertes des os, ou elle a même des hémorragies, automatiquement, elle doit se rendre dans une structure de soins. Parce que quand elle traîne, quand elle a ses contractions, parce qu'en principe, une femme doit accoucher en dehors 24 heures. Mais si en dehors ces 24 heures, elle ne sait pas accoucher normalement, c'est qu'il y a un problème.
Mais là, il y a un travail prolongé.
Oui, il y a un travail prolongé, comme on l'appelle. Oui. Donc, et là, il y a un problème. Et il faut que le personnel médical puisse intervenir en ce moment-là. Et la femme doit déjà être informée que quand il y a telle situation, il faut automatiquement faire recours à un personnel de santé compétent, soit une accoucheuse, soit un médecin.
Et docteur, si on peut avoir une idée sur les statistiques par rapport au cas de fistules qui surviennent lors de complications d'accouchement, vous avez une idée sur les statistiques?
Oui, parce que selon une étude de démographie sanitaire qui a été menée en 2007, on a identifié à peu près 42 000 cas des femmes qui souffrent des fistules dans notre pays. Et ça, c'est un chiffre qui est sous-estimé. Parce qu'on sait que beaucoup de femmes, quand elles ont ce problème, ne parviennent pas à se déclarer. Parce qu'elles disent que c'est un mauvais sort, parce qu'elles elles ont honte de ce problème, elles ne se déclarent pas. Mais c'est là qui ont pu, pendant cette étude-là, on a pu quand même déchiffrer qu'il y a en moyenne environ 42 cas des femmes qui souffrent de cette fistule-là.
Voilà, Ismaël Mumpoi nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga. Ismaël, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour madame.
On vous écoute, Ismaël.
Ah oui, je demande une chose à la madame. C'est par problème ou sur les étudiants? Parce que je vais différencier entre les
étudiants. Et Ismaël, parlez un peu plus fort, Ismaël.
Oui, je dis sur le partogramme, il y a des lignes. Nous avons une ligne d'action et la ligne d'attention. L'une des lignes, l'une est surveillée par les infirmiers ou des personnes compétentes et l'autre sera vérifiée par le docteur ou le médecin. Mais à combien de temps entre le respect de ces deux lignes peut être nécessaire? Mais juste avant l'accouchement pour ne pas créer aussi des petits non vaginales. Et combien de minutes ou combien de temps on peut faire les petits vaginales pour éviter les difficultés? Alors, l'accouchement peut être dirigé dans quel genre d'état ou dans quel service il peut être orienté pour ne pas avoir aussi une fistule anovaginale.
Merci Ismaël, je crois qu'il est du domaine et nous parle du partogramme. Vous allez expliquer tout cela, docteur, tout à l'heure. Nous avons également Madame Mireille qui nous appelle de Lubumbashi. Un coucou à nos auditeurs de Lubumbashi dans la province du Katanga. Madame Mireille, bonjour.
Bonjour, bonjour Radio Capi.
On vous écoute, madame.
Ok, moi, ma préoccupation, parce que ça m'est déjà arrivé, je suis mère j'ai accouché trois fois. Mais pour le premier cas, j'ai eu des fissures pour mon premier enfant. Et le deuxième enfant, le même. Mais pendant maintenant le troisième grossesse, j'ai vite consulté le médecin, mais j'avais peur, disons, il m'a rien donné. Il m'a dit tout simplement que ça ira. Mais quand même, j'ai utilisé un peu les méthodes traditionnelles. Hein. On m'a donné des médicaments un peu traditionnels là. Et l'autre que j'ai pris, j'ai mis au monde des jumeaux, mais je n'ai pas eu même des déchirures, ainsi de suite. Ce que je veux demander, en fait, il n'y a pas de médicaments de prévention en avance, on peut donner. Parce que moi, je mets au monde des enfants un peu qui ont de poids élevé. Parce qu'on m'a dit que c'est ça. La cause des déchirures, est-ce c'est vrai? Parce que notre invité là n'a même pas parlé que si l'enfant est gros, il a de poids, il peut se déchirer, mais il n'a pas parlé de ça. Mais C'est que moi, j'entends, on me dit que si les enfants ont du poids, là, tu peux avoir des déchirures.
Merci, Madame Irène, Docteur Irène.
Oui, je veux répondre d'abord à Ismaël pour sa question. Donc, en principe, le partogramme, c'est un outil de suivi qu'on utilise au niveau de la maternité. Et dans cet outil, il y a, comme il a dit, il y a des lignes qu'il faut bien respecter, la ligne d'attention et la ligne d'action qui sont tracées. Et on est en train de suivre la femme pendant qu'elle est en train de travailler comme elle est là. Mais il faut savoir que quand la femme à 4 cm de dilatation du col, elle est en train de gagner en principe 1 cm par heure. Mais en dehors 6 heures, déjà cette femme doit accoucher. Et quand on regarde pour qu'elle arrive à 10 cm, il faut en principe qu'elle fasse 6 heures. Mais si elle dépasse ces 6 heures, il faut savoir qu'il y a un problème. Si évidemment elle a des bonnes contractions. Oui. Là, si elle a des bonnes contractions, on pense que après elle gagne 1 cm par heure. Mais si on voit que dans les 6 heures, elle ne parvient pas toujours à accoucher, c'est qu'il y a un problème et il faut intervenir. Il faut faire un appel à des personnes compétentes. Ça veut dire un médecin doit venir pour voir qu'est-ce qui ne va pas comme problème là-bas.
Et on peut même en arriver à une césarienne.
Oui, on peut arriver à une césarienne. Bon, le toucher vaginal, ça dépend. Comme Ismaël, le toucher vaginal, ça dépend si la poche des os n'est pas rompue, si la poche des os est intacte. Parce que quand la poche des os est rompue, on évite de faire les touchers vaginal tout le temps, tout le temps, tout le temps. En principe, après une heure ou deux ou trois touchés vaginal, quand la poche est intacte, ça va encore. Mais quand la poche des os est déjà rompue, ça, il faut éviter de faire des touchés vaginal intempestifs. Donc ça, c'est un outil qui nous permet quand même de faire le suivi et d'éviter des complications qui peuvent conduire à la fistule pendant l'accouchement, le partogramme. Et c'est pour cela qu'on insiste que toutes les accoucheuses ou les infirmiers qui travaillent dans la maternité soient formés à l'utilisation de ce partogramme et à le remplir correctement au niveau des centres de santé. Par rapport à Madame Mireille, bon, il y a déchirure et fistule. Et ça, ces termes-là, il faut un peu les différencier. Parce que quand elle parle de déchirure, il faut savoir, elle parle de déchirure, soit au niveau du col, au niveau du vagin, ce qui est un peu différent de la fistule. Parce que la fistule, là, il y aura une destruction des tissus au niveau du vagin et ça va créer, comme j'avais dit, une communication entre deux organes. Et là, ça va créer ce qu'on appelle fistule. Bon, maintenant...
La fistule, c'est au niveau interne.
Oui, même les déchirures, c'est au niveau interne. Même la fistule aussi, c'est au niveau interne. Maintenant, dans son cas, à elle, elle est en train de parler de déchirure. Maintenant, peut-être il fallait qu'elle m'explique bien. Quand on lui a dit déchirure, est-ce qu'elle a vu elle qu'elle perdait des urines ou bien elle perdait des selles, est-ce que c'était ça? Parce qu'en principe, quand une femme souffre de la fistule et qu'on est intervenu, on a fait la réparation chirurgicale, on lui donne des conseils après.
Oui.
On lui dit, en principe, tu dois accoucher au moins après une année. Tu dois attraper une grossesse après une année parce qu'il faut un temps de repos pour cette femme-là.
Et c'est très important de suivre cette recommandation.
Oui, et c'est très important de suivre cette recommandation. Et quand elle tombe enceinte, elle doit être suivie par un personnel compétent. Et au moment de l'accouchement, elle doit être aussi suivie très particulièrement parce qu'on sait que c'est un cas. Parce que si on ne fait pas très attention, la fistule peut revenir. Et c'est pour cela qu'on le dit qu'elle doit aller dans une structure où elle a quand même accès à des personnels compétents comme un médecin qui va la suivre. Et souvent, parfois aussi, on fait des césariennes. On fait des césariennes parce que peut-être que si elle accouche par voie basse, ça va créer encore une autre fistule et on sera obligé encore de faire une autre réparation. Peut-être dans ces cas, c'était des déchirures, c'était pas des fistules comme telles. Mais les gros bébés aussi, ça peut entraîner des fistules. Parce que comme on l'a dit, quand il y a un gros bébé, ouais, l'enfant ne sait pas sortir et ça va créer, compresser cette paroi-là qui sépare la vessie et le vagin et ça risque de créer un chemin, une communication anormale.
Voilà, Serge Mukendi nous appelle de Kananga, dans le Kasaï occidental. Madame Marie-Jeanne Toussé à Kinshasa, on le retrouve tout à l'heure.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent. Nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Serge Mukendi, vous êtes à Kananga, dans le Kasaï occidental. Serge, bonjour. Bonjour Serge.
Bonjour.
On vous écoute Serge.
Merci beaucoup. J'ai deux petites préoccupations. Je cherche un peu donc la lumière entre sinus et fistule, puisque ces deux termes sont souvent confondus dans les langages médicaux courants. Je voulais un peu savoir les éléments de différence qui différencient le sinus d'une fistule. Ça, c'est la première préoccupation.
Oui.
La seconde, on nous a dit que le traitement d'une fistule est essentiellement chirurgical. Alors, à mon niveau, je cherche un peu à savoir quelles sont les différentes modalités à utiliser pour aboutir à ce traitement. Et chaque fois qu'on opère, on rencontre que non, il y a une infection. Et quelle est la méthode qu'on peut mettre sur pied pour prévenir contre cette infection? Oui,
merci.
C'est ça les deux préoccupations. Merci.
Merci Serge. Madame Anne-Marie. Madame Marie-Jeanne Toussé, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, madame.
Bonjour.
On vous écoute, madame.
Ok, merci beaucoup, Radio Okapi, et merci à notre invité. J'ai suivi son intervention. Elle a dit qu'on a au moins 42 000 cas de fistules. Je voulais savoir, dans les 42 000 cas de fistules, combien des cas concernent les jeunes filles, c'est-à-dire les mineurs, les moins de 18 ans. Combien de cas y a-t-il? Parce que je trouve que par rapport aux fistules, il y a aussi ces mariages de mineurs, mariages précoces, qui automatiquement, il y a des grossesses précoces. Et ces petites filles-là connaissent aussi des fistules. Et vous voyez qu'au niveau de notre code de la famille, le code de la famille consacre le mariage d'une fille de 14 ans. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais changé ce code de la famille. Vous ne trouvez pas que la loi est en train d'inciter qu'il y ait des mariages précoces et que les filles en souffrent dans les fistules? Ce sont là mes préoccupations, en tant que mère d'abord.
Merci, Madame Marie-Jeanne Toussé. Docteur Irène Katoba.
Oui, bon, pour la première question, la différence entre sinus et fistule. Bon, sinus, c'est une cavité normale, hein, qui est au niveau de l'organe, au niveau du corps humain. Par exemple, le sinus nasal, ça, c'est une cavité que normalement, que Dieu a créée, c'est normal. Mais fistule, là, c'est une communication anormale. Donc, c'est survenu après quelque chose après, bon, comme on a dit, après une cause quelconque qui l'a
soit
créé.
Soit une complication d'accouchement, oui, oui. Bien, oui.
Donc, c'est ça. Sinus, c'est quelque chose qui est anormal, qui est au niveau du corps humain.
Fistule,
mais
fistule,
c'est une complication anormale.
Voilà.
Sinus, c'est normal et fistule, c'est anormal.
Tout à fait.
Bon, par rapport à la prise en charge médicale, comme il a dit, souvent après, il dit que souvent après les interventions, il y a une infection. En principe, la fistule, comme telle, ça, c'est quand après l'intervention, si elle s'est faite dans des conditions adéquates, il n'y a pas de désinfection. Parce que le personnel qui a fait cela, le médecin et les infirmiers qui sont supposés faire ça, sont formés pour assurer cette prise en charge médicale. Et quand on fait une intervention chirurgicale sur les cas de fistules des femmes qui ont été opérées, le taux de réussite est d'environ 90%. Ça veut dire sur 100 personnes qui seront opérées, il y aura 10 personnes qui vont présenter des complications. Donc ça, au moins, c'est minime. Mais on ne peut pas dire qu'automatiquement, quand on fait une intervention chirurgicale sur les fistules, ça va conduire à l'infection. Non. Le personnel a été formé pour ça, pour éviter ces cas des infections et des complications.
Et par rapport à Mme Marie-Jeanne qui demande sur les 42 000 cas qui ont été recensés, c'était dans quelle proportion pour les jeunes filles?
En principe, comme on l'a dit, parmi les facteurs favorisants, il y a les mariages précoces, il y a les grossesses précoces. Ce sont les jeunes filles qui sont les plus à risque pour développer les cas des fistules. La proportion, on peut dire, parce que souvent les femmes se déclarent un peu plus tard. Quand elles ont déjà fait 7 ans ou 10 ans, elles ont souffert de cette maladie et elles viennent se présenter. Mais quand on regarde bien, la cause, quand la fistule est survenue, c'était quand elles étaient encore jeunes à leur première grossesse. Et on peut dire que la moitié des cas, ça concerne les jeunes filles. Et je suis d'accord qu'il faut éviter les mariages précoces, parce que les mariages précoces entraînent des grossesses précoces et la jeune fille ne s'est pas encore développée comme il faut pour pouvoir conduire à bien son accouchement. Et elle risque de développer les fistules à l'accouchement. Et si, surtout, elle n'est pas dans une structure de soins qui n'est pas équipée, elle n'est pas devant un personnel qui est formé, et elle peut vraiment avoir le risque de développer la fistule après l'accouchement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec elle que les mariages précoces, il faut vraiment lutter contre les mariages précoces. Il faut sensibiliser la communauté, les parents, les jeunes filles et même les jeunes garçons aussi, d'éviter vraiment les mariages précoces et d'attendre quand la fille sera âgée ou quand elle sera adulte pour pouvoir se marier et avoir des accouchements normaux.
Est-ce qu'il y a de règles d'hygiène à observer pour une femme qui a été opérée d'une fistule?
Oui, il y a des règles d'hygiène à observer. Parce que, bon, ça, ce sont des conseils qu'on donne à la femme après les interventions, comment se laver, comment éviter de porter des sous-vêtements qui sont sales. Donc, ce sont des règles qu'on donne aux femmes après l'intervention.
Voilà, nous rappelons qu'on parlait de fistules, comment les soigner, avec notre invitée, docteur Irène Katoba, chargée des programmes fistules au bureau de UNFPA Kinshasa. Madame, nous vous remercions d'avoir répondu à notre invitation et surtout d'avoir répondu aux préoccupations et questions de nos auditeurs.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir. Au capitaine.